France Culture.
Le temps qui bifurque. Simankiewicz avait été écrivain. Ben après tout, il y a un écrivain qui nous a raconté ça. C'est Borges. Ben. Le jardin au sentier qui bifurque. Tout le thème du jardin au sentier qui bifurque consiste à nous dire ce qui bifurque, ce n'est pas l'espace, c'est le temps.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
Grâce au magnétophone qui encombrait le bureau de Gilles Deleuze, nous disposons de plus de 10 années d'enregistrement des cours que le philosophe a dispensés à l'université de Paris 8. Ce sont les extraits les plus marquants que nous vous proposons d'écouter. La séance du 10 janvier 1984 explore un cas particulier de ce que Deleuze appelle l'image-temps. Il analyse l'œuvre du cinéaste américain Joseph Mankiewicz, notamment la manière dont ce dernier utilise le flashback et dont il rend sensible au spectateur la conception d'un temps qui bifurque. 9e épisode sur le temps qui bifurque, cours du 10 janvier 1984.
Mankiewicz, il procède par flashback. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il procède par flashback ? C'est une question insoluble si on s'interroge sur le flashback lui-même. En revanche, ça devient évident si l'on se demande mais qu'est-ce qu'il a dans la tête en tant que penseur, Mankiewicz ? Donc, je réclame toujours le droit de traiter Mankiewicz exactement comme je traite Kant ou comme je traite Rob Grigay. Bon, qu'est-ce que c'est la pensée de Mankiewicz ? Il a quand même une pensée, cet homme. Et cette pensée, elle est dans son œuvre. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, son œuvre ? Mais il me semble que ce n'est pas compliqué, c'est... Je dirais, si j'en parlais quand je parle d'un philosophe, je dirais, c'est très curieux, c'est quelqu'un qui avant tout ne croit pas au destin. Remarquez que c'est intéressant pour le temps déjà, parce que ça revient à dire que pour lui, au fond du temps, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de destin. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas croire au destin ? Qu'est-ce qui se passe chez lui ? Il me semble évident qu'il conçoit que j'essaie de reconstituer une pensée entre un être et qu'il n'y a pas de raison. Vous me direz pourquoi il pense ça. On est dans le sans fond. Pourquoi il n'y a pas de réponse. Pourquoi je pense telle chose. Pourquoi j'y crois. C'est la dernière des questions. C'est comme ça. Et bien pour lui, ce qui est comme ça, c'est que ça bifurque tout le temps. Et il faut prendre ça à la lettre. Nous ne cessons pas de bifurquer dans le temps. On pourrait concevoir un philosophe. Supposons que Mankiewicz n'ait jamais fait de cinéma, qu'il ait fait des livres de philosophie. Il nous aurait expliqué ça. Expliquer, pas plus expliquer, c'est pas plus clair, c'est plutôt... Est-ce que c'est plus clair ? Le cinéma, c'est pas plus simple que la philosophie. Supposez un philosophe qui vous dit ça. Ça bifurque dans le temps. C'est-à-dire, nous ne cessons pas de bifurquer dans le temps. Ça veut dire immédiatement, le temps bifurque. Ce n'est pas dans l'espace qu'il y a des bifurcations. Les bifurcations dans l'espace, ce n'est pas grave. Les bifurcations dans l'espace, elles dépendent de quelque chose de plus profond, c'est les bifurcations du temps. Il ne faut même pas dire « je bifurque dans le temps », il faut dire que le temps ne cesse de bifurquer. Il fait des coudes, c'est l'antidestin. Ah, le temps fait des coudes, il bifurque. Bon, pas tout le temps. Il y a des temps morts, puis ça bifurque. Et puis la bifurcation bifurque. Alors ça fait beaucoup de bifurcation. Et c'est ça le temps. Le temps qui bifurque. Tiens, si Mankiewicz avait été écrivain, ben après tout, il y a un écrivain qui nous a raconté ça. On en a parlé, donc je le recite par mémoire, on le retrouve, donc très bon, ça fait une retrouvaille, c'est Borges. Bon. Le jardin au sentier qui bifurque. Tout le thème du jardin au sentier qui bifurque consiste à nous dire ce qui bifurque, ce n'est pas l'espace, c'est le temps. quand une idée vous tombe comme ça, soit qu'elle vous arrive à vous-même, soit que vous l'entendiez, vous n'allez pas demander pourquoi tu dis ça. Sentez que cette question non seulement serait insolente, mal polie, mais proprement dénuée de tout sens. Pourquoi il dit ça? Ce qui compte, c'est ce que ça nous fait voir et l'effet que ça nous fait. C'est par là que je recommence mon histoire. Il n'y a pas de concept sans affect et percept. Voilà un concept. Le temps bifurquant. L'énoncé de ce concept, c'est les bifurcations ne sont pas dans l'espace, elles sont dans le temps parce que c'est le temps qui bifurque lui-même en lui-même. J'espère que rien qu'entendre ça, je peux vous le dire là, puisque ce n'est pas moi, vous avez déjà une émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, il ne faut pas revenir. C'est émouvant. Les émotions que cela vous donne, je dirais que ce sont les affects liés à ce concept. Ceux qui n'éprouvent pas d'émotion sont insensibles à ce concept. À ce moment-là, ils seront émus par d'autres concepts. Je ne connais personne qui reste insensible à n'importe quel concept. Chacun les siens. Deuxième question, quel percept, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait voir? Sinon, c'est pour ça que la philosophie, comment vous voulez la distinguer du reste? Mettons que la philosophie, je dis, ah ben oui, elle s'occupe des concepts. D'accord, elle s'occupe des concepts. Mais comment vous voulez la séparer des affects? Comment vous voulez la séparer des percepts? C'est-à-dire, comment vous voulez la séparer des sciences, des arts? Tout ça, c'est le même discours. Tout ça, c'est absolument aussi bien que... C'est en ce sens que moi, je vois aucun inconvénient, aucune de sauter de Kant à Mankiewicz, à condition que vous ne fassiez pas le mélange. Ce qui m'embête, c'est si vous en tirez l'idée d'un mélange. Mais ce n'est pas un mélange. Voilà donc qui nous dit le Mankiewicz. Le temps bifurque et cesse de bifurquer. Du coup, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il nous dit ça vraiment? Oui, il nous dit ça vraiment. Tout le temps, il n'a que ça. Il n'a qu'une idée. Et vous comprenez, quand on a une idée comme ça, ça suffit. Ça suffit pour une vie, ça suffit pour une œuvre. Il y en a qui ont fait une œuvre immense avec moins que ça. Bon, comprenez, ça couvre plusieurs choses, les bifurcations, comme c'est le temps qui bifurque. Bien sûr, ça recouvre la variation des personnages. Jamais chez Mankiewicz, un personnage n'a un développement unilinéaire. C'est par là que c'est l'antidestin. Jamais. En même temps que je dis jamais, du coup, si, un cas. Tant mieux, il en fallait un. Il en fallait un parce que ça va nous confirmer, pas du tout à titre d'exception. On va voir pourquoi il y en a un qui ne bifurque pas, à ma connaissance. Mais sinon, ça bifurque tout le temps. Alors, ça comprend les variations. Mais la bifurcation, c'est un concept plus profond que celui de variation d'un personnage. Les personnages varient. Mais sur quel mode ils varient chez Mankiewicz? Il varie parce que perpétuellement quelque chose dérape. Quelque chose qui dérape. C'est-à-dire qui prend une autre voie. Comment on dit dans un train, une déviation. Ça dévie tout le temps. C'est pour ça que c'est une narration perpétuellement coudée. Je dirais que ça fait partie des grands narrateurs falsifiants. La narration, elle est perpétuellement coudée. Vous suivez? Avant même qu'un petit segment soit décidé, il a déjà bifurqué. Bon, pourquoi? Il y a un cas. Il a répudié Cléopâtre. Vous savez qu'il a fait deux grands films historiques, ou plutôt théâtraux, tirés des deux pièces de Shakespeare, Jules César et Cléopâtre. Il a répudié Cléopâtre très fort en disant que ce film lui avait été imposé, qu'on ne lui avait pas laissé faire ce qu'il avait voulu, etc., etc. C'est quand même, pour beaucoup de gens, c'est un film splendide. Qu'est-ce qui l'intéresse dans Shakespeare? Ce qui l'intéresse dans Shakespeare, c'est quelque chose de formidable, qui est dans Cléopâtre de Shakespeare, à savoir, c'est que Cléopâtre est perpétuellement présentée comme l'ondoyante, la toute ondoyante, comme vraiment l'ondoiement universel. Londoiement devenu puissance cosmique. Et elle ne cesse pas de bifurquer. C'est la grande bifurquante. Elle n'arrête pas de dévier avec sa propre déviation. Elle bifurque sans, exactement comme on dit d'un cheveu qu'il est fourchu. Cléopâtre est fourchu. Alors vous me direz, elle est variable, elle est inconstante. Oui. Mais c'est tellement, oui, elle est variable, elle est inconstante, c'est évident. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est pourquoi elle est variable et inconstante. Elle n'y peut rien. Et pourtant, c'est pas un destin. C'est parce qu'elle est le temps. Elle est le temps en personne, elle est le temps faite femme. C'est-à-dire, elle bifurque et bifurque avec la bifurcation. Elle n'arrête pas de bifurquer. Et Marc-Antoine, lui, il a l'amour fou. Alors elle le trahit, mais c'est pas qu'elle le trahisse. Encore une fois, c'est le temps qui bifurque. Et Cléopâtre est le temps à la manière de Mankiewicz. C'est-à-dire le temps est un cheveu fourchu qui continue à produire du cheveu fourchu, à proliférer en cheveu fourchu. Et c'est ça le temps. Dans le jardin au sentier qui bifurque. Alors, le pauvre Marc-Antoine, il est réduit là, à rien. Il boit pour oublier, il rompt perpétuellement avec Cléopâtre, et il revient à Cléopâtre, et il y a la fin splendide, où dans une ultime bifurcation, Cléopâtre va jusqu'à lui rendre son amour à elle, Cléopâtre. Si bien qu'il meurt d'une certaine manière heureux. Mais dans la tragédie d'avant, Jules César, on retrouve une partie des mêmes personnages. On retrouve Marc-Antoine. Et cette fois, c'est très curieux, parce que là, il a fait ce qu'il a voulu, Mankiewicz. Il y a l'homme qui ne bifurque pas, c'est Brutus. Bien sûr, il a beaucoup d'affection pour César, et pourtant il le tue. Mais ça ne fait pas une bifurcation. C'est un homme unilinéaire. Une fois qu'il a choisi l'amour de la République, il ne se détournera pas. Il ira jusqu'au bout. Et il a beau être attaché à César, il tuera César. Il a beau être habile politique et très bon orateur, il ira tout droit. Et il expliquera linéairement, directement au peuple, pourquoi il a tué César, et brièvement, en disant, vous savez bien que César allait assassiner la République. En d'autres termes, Brutus, dans son âme simple, ne sait pas ce que c'est qu'une bifurcation. Et il y a Marc-Antoine, à ce moment-là, qui n'est pas encore amoureux de Cléopâtre, ne la connaissant pas, qui, lui, le second Marc-Antoine, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, est joué par Burton, qui joue admirablement. La bifurquante Cléopâtre étant jouée par Elizabeth Taylor, et dans Jules César, Brutus est joué par Mason, et Marc-Antoine par Brando, dans une interprétation très 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 belle. Car Mankiewicz a donné du Jules César de Shakespeare une interprétation qui semble très intéressante. C'est que Brando, lui, c'est l'homme fourche. C'est l'homme qui ne cesse de bifurquer. Aussi sait-il profondément ce que c'est que le temps. Et la grande scène du Jules César, c'est Brando, Marc-Antoine, qui se présente comme un homme de guerre, un guerrier mal habile à parler, faisant pas de politique, mais qui, en un discours de 10 minutes, retourne la foule des Romains, fait bifurquer l'opinion, les ramène à César, dans un discours fourchu qui est fantastique, où, dans chaque phrase, Marc-Antoine rend hommage à ceux qui ont assassiné César, les citoyens si honnêtes et si soucieux de la République, mais à chaque fois, déviation à la gloire de César. Si bien que Brutus, qu'il ignore la puissance de la bifurcation, avant même d'avoir compris quoi que ce soit, se retrouve proscrit, promis à la défaite, acculé au suicide, et mourra sans avoir bien compris. Et c'est ça qui est extraordinaire, il me semble, par l'interprétation que pousse Mankiewicz, qui, à mon avis, est complètement shakespearienne. Mais il l'a poussé, là, dans son film, il l'a poussé jusqu'au bout, cette interprétation. On ne peut pas dire simplement « Brutus est un idiot », vous comprenez ? Et Marc-Antoine est malin. Oui, Marc-Antoine est malin. Mais Marc-Antoine est malin parce qu'il a l'expérience du temps qui bifurque. Brutus se conduit comme un idiot, pourquoi ? Parce qu'il n'a même pas laissé d'observateur lorsque Marc-Antoine parlait au peuple. Non seulement il est parti lui-même, il n'a pas laissé d'observateur, tellement il a une nature droite. Une nature droite est condamnée par le temps, parce que le temps, c'est le temps qui bifurque. Alors, bon, si on comprend ça, bah oui, c'est évident. Pourquoi il y a tout le temps des flashbacks chez Mankiewicz ? Essayez de comprendre, on est tout près de retenir quelque chose. Forcément, il y a des flashbacks chez Mankiewicz. Parce que si le temps, c'est le temps qui bifurque, il bifurque d'une manière tellement, tellement insensible, où il y a une possibilité de bifurcation à chaque instant, que la plupart du temps, on ne peut pas les saisir sur le moment. Ce n'est pas moi qui bifurque, c'est quelque chose dans le temps qui bifurque. Si j'ai un sentiment inconscient, je suivrai la bifurcation. Mais une claire conscience de la bifurcation, je ne pourrai pas l'avoir sur le moment. C'est parce que les bifurcations du temps débordent les personnes et les consciences qu'elles ne peuvent être saisies qu'au passé. Sauf certains cas où il n'y a pas flashback. Mais s'il y a si souvent flashback chez Mankiewicz, c'est en fonction d'une théorie du temps ou d'un sentiment du temps. Qui me semble extrêmement important, extrêmement profond, à savoir cette idée d'un temps qui, dans son essence, en tant que temps, ne cesse pas de bifurquer. Si bien que s'il y a un écrivain dont Mankiewicz est proche, et c'est pas exclu, là je sais pas cette chose, c'est pas exclu qu'il soit connu, et que Mankiewicz l'ait lu de très, avec beaucoup de passion, s'il y a un écrivain proche de lui, c'est Fitzgerald. Pour Fitzgerald, là aussi, il n'y a pas lieu de demander pourquoi. Les questions pourquoi, c'est tellement dérisoire. Il y a une question qui est la question des questions. Alors pourquoi ? C'est comme ça. Il l'a payé de sa vie, il l'a payé dans toute sa vie. C'est la question qu'il travaille. Il est né pour cette question. Supposez que chacun de nous soit né pour une question, alors le malheur, c'est quand on ne trouve pas la question. À ce moment-là, on ne meurt pas. On est immortel, on traînera toute la vie à la recherche de la question qu'on devait incarner et donc trouver la vie pour être tranquille. Et puis comme vous ne risquez pas d'y répondre, vous aurez la paix une fois que vous tiendrez votre question. Jules Verhaal, il avait une question, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il y a des gens qui ont comme question qu'est-ce qui va se passer ? Non, Fitzgerald, c'est pas ça. Sa question, ça n'a jamais été qu'est-ce qui va se passer. C'est qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là. Bien, il faut être voué à une question. Alors là, c'est une question d'affect. Oui. C'est pour ça que concept, percept, affect, tout ça forme une espèce de circulation diabolique sans cesse. On ne peut pas dire lequel est le premier. Fitzgerald, il se met toujours dans des situations où il finit par, comme on dit, en arriver là. Et toute son œuvre est qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là ? Beau, riche, heureux, il se retrouve misérable, malheureux, vieilli avant l'âge, presque incapable d'écrire une ligne. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Comment sommes-nous arrivés là ? Et quand la question devient celle d'un couple, Fitzgerald et sa femme, ça devient une espèce de duo musical qui est une des plus belles choses de toute la littérature. Comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, je crois que comment sommes-nous arrivés là ne peut se comprendre que dans la perspective précisément d'un temps dont l'essence est d'être un temps bifurquant. C'est parce que ce n'est pas notre faute, c'est la faute à personne. Et c'est ce que dit tout le temps le Fitzgerald. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la mienne. C'est quoi? Facile de dire c'est le temps. Non, ce n'est pas facile. Si on en tire une présence du temps si insolite, si forte que le temps qui bifurque, c'est le temps qui n'a pas cessé de bifurquer. Si bien qu'on a dérapé, on a suivi des cheveux fourchus. On a suivi toutes les voies de déviation avant même de s'en rendre compte. Et nous voilà, on en est arrivé là. On dit que ça ne peut être saisi que par flashback. À ce moment-là, le flashback, c'est d'être complètement d'être conventionnel. Il reçoit sa nécessité d'ailleurs. C'est l'essence d'un temps qui bifurque qui, dans ce cas, fonde le flashback. Dans le cas de Mankiewicz, ce n'est pas une réponse générale. Dans chaque cas, c'est une essence du temps qui va fonder les opérations de la pseudo-mémoire. En d'autres termes, c'est jamais la mémoire qui donne le secret du temps. Ce que notre misérable mémoire recueille du temps, elle ne peut le recueillir que d'après la nature du temps qu'elle fréquente.